veux me corriger.
Tiens, tiens, okay. Regarde mon beau Blu-ray du Punisher de 89.
C'est lequel, celui-là?
Le Mark Goldblatt avec Dolph.
Ah non, moi j'ai revu celui avec Thomas Jane il y a genre 3-4 mois. C'est une expérience. C'est pire que les vidéos érotiques d'Alain. Donc, vraiment.
Ça part très mal. Là, je sais
qu'est-ce
pas
que tu vas continuer cette vidéo érotique. Alors voilà, on montre le copain en fait, et puis.
Aimez-vous John Travolta?
Ah ouais. Oh la vache.
Oh là là, oui, John Travolta dans le film.
C'est l'enfer.
Bon, ça devient n'importe quoi.
Pardon, je suis désolé, je vous ai cassé. Excusez-moi, voilà, j'arrive, non, j'avais envie clair, de vous retrouver un peu les copains, de passer un petit moment avec vous là ce soir.
Eh ben, on est ravis.
Votre agent du chaos.
Voilà. Problème.
Ben, Marv Wolfman, alors, qu'est-ce qui se passe avec Marvel, du coup?
On était resté sur le fait que Marv Wolfman s'était fait tout simplement débouté par le juge. Ouais. Pour ses revendications concernant Blade et tous les personnages qu'il avait créés pour Tomb of Dracula.
Oui, il y avait Deacon Frost aussi, je suis pas rentré dans le détail, mais l'avocat lui demande aussi est-ce que vous avez créé Deacon Frost, quand vous l'avez créé, c'est assez pénible à suivre, je vous assure.
Généralement, ces procès sont assez pénibles, et notamment Wolfman dira plus tard aussi qu'il n'a pas forcément été très soutenu par ses amis de la profession. Il citera notamment John Byrne, qui l'accusera carrément d'avoir fait un faux témoignage au procès, tandis que Byrne lui dira non, moi j'ai été un très bon un employé modèle, voilà, j'ai dit ce qu'ils avaient à dire. Et
Byrne, il avait été pas mal critiqué, justement, sur ses positions très, très corporate envers Marvel.
Exactement, voilà. Ouais. Et donc, Wolfman lui en voudra beaucoup à ce sujet-là.
Ils ont écrit beaucoup de trucs ensemble, Wolfman et Byrne, je suis même pas sûr, hein, même à l'époque. Hein.
Non, à part, ils ont bossé ensemble sur Superman, mais après, en dehors de ça, je suis pas sûr.
Peut-être un épisode des 4 Fantastiques?
Alors, dans les 80, ouais, tout début. Oui, il y a eu une période où, effectivement.
Peut-être, hein.
Ou avant que. Ouais, avant que Byrne reprenne la série.
Ouais, il avait fait quelques épisodes avant. Je me demande si c'était pas du Wolfman au scénar.
Tout à fait, c'est ça, ouais, complètement du Wolfman. Ouais, ouais. Et après, ils se retrouveront fin des années 80 chez DC pour sur les séries Superman. Hein, ils sont. Wolfman écrira Adventures et Superman fera le reste d'ailleurs. Si vous voulez tout faire. Mais du coup, effectivement, à la fin des années 90, ce procès, je pense, aura mis fin à leur amitié, si amitié il y avait. Mais du coup, effectivement, ce ne seront pas les seuls déboires que les films auront avec le monde des comics. Alors, dès 2005, notamment, Alan Moore, lui, mettra un grand coup de pied à la fourmilière en disant que, décidément, lui, on lui reprendra plus, c'est terminé, oubliez-moi. Alors, Moore va avoir plusieurs films, quand même, d'adaptés. En 2001, ce sera From Hell.
Ouais, avec Johnny Depp.
Qui était pas bien. Hein, qui est dénaturé, à mon sens, complètement l'œuvre de Moore.
Ouais, ça aurait été un film sur Jack l'Éventreur tout court, ça aurait été sympa, mais pas en adaptation.
Voilà. Déjà, l'œuvre, elle est très touffue. Bon, c'est du Alan Moore, hein, ça. Voilà, c'est le problème. Mais c'est déjà un premier coup de canif. Hein, effectivement, on se rend compte que Alan Moore est très difficilement adaptable au cinéma, qu'il faut beaucoup couper, beaucoup enlever, beaucoup détourner. Donc, le scénario Alan Moore, ça lui plaît pas forcément beaucoup.
Et le suivant est un chef-d'œuvre. Sean Connery, en lisant le scénario, a dit « Je comprends rien du tout, je vais jouer dans ce film ». C'est littéralement ce qu'il a dit. Hein.
Voilà. Donc, c'est League of Extraordinary Gentlemen.
C'est celui-là qui a fâché Moore définitivement, non? Avec
Alors, celui-là qui a fâché Moore définitivement, c'est V pour Vendetta. Mais on avait quand même déjà les premiers prémices, effectivement, avec Elix G. Sur le fait notamment que
on a perdu Alain.
Ah oui, on dirait.
Il a un nouveau micro, Alain, en fait. Je sais pas, je vois ça.
Oui, j'ai l'impression. Ouais.
On a perdu Alain. Alors ouais, pour combler un peu en attendant qu'il revienne. Moi, je l'avais pas trouvé si mal, le League of Extraordinary Gentlemen.
Oh, j'en ai un très vague souvenir. Hein.
Après, ça avait rien à voir avec le truc de Moore, hein, clairement, hein, puisqu'il y avait des personnages américains. Je crois que c'est ça qui l'a fait un peu.
Ouais, c'est le personnage qui est le protégé de celui de Sean Connery, là. C'est loin, hein, tout c'est loin, tout ça.
Mais bon. Ouais, je sais pas.
Tant qu'un n'est pas revenu. Donc ensuite, on a eu V pour Vendetta en 2005, le film produit par les Wachowski.
Qui, en soi, qui n'est pas une si mauvaise adaptation que ça. Hein.
Bon, c'est pas une purge. Il y a pire, franchement, il y a pire.
Mais en fait, et puis, on va quand même pas oublier Watchmen.
Ah oui, parce que de ton réalisateur préféré.
Moi, c'est celui qui m'a définitivement fâché avec Zack Snyder. Parce que moi, j'avais vu 300, que j'avais trouvé pas si mauvais que ça. Qui était déjà d'ailleurs une adaptation, hein, comme quoi Snyder.
Oui, bah oui, de Frank Miller.
Une adaptation de Miller. Moi, j'avais bien aimé 300. Je me suis dit, tiens, j'ai commencé à avoir très très peur quand j'ai vu. Quand j'ai vu une adaptation de Watchmen en me disant ça va être compliqué quoi. Et puis vraiment la vision du film, ça a été un moment très très pénible quoi. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer hein, ce que je vais dire, mais clairement pour moi c'est un gars qui a rien compris. Snyder, on le vend comme un mec super fan de, il les comprend pas en fait les super héros. C'était la même chose sur son Man of Steel. Là, il reprend l'intrigue de Watchmen.
Ouais, mais sans ce qui rend Watchmen intéressant.
Bah, c'est-à-dire qu'il enlève toute la partie second degré, la partie méta, la partie. Et c'est bourrin. Qu'est-ce que c'est bourrin, sérieux. Il surligne tous les effets avec de la musique. C'est vraiment le. C'est vraiment l'éléphant qui porte lui-même son magasin de porzellane, notre ami Zack Snyder, dans Watchmen. C'est pas en soi un mauvais réalisateur, hein, mais c'est l'enfer. Il reprend plan pour plan du Alan Moore qui n'est pas fait pour reprendre plan pour plan. On a vraiment perdu Alain, là, pour le coup.
Oui, je ne sais pas où est Alain. On va continuer, on est sur la radio. Continuer.
Ouais, ça frise, il me dit que ça frise chez lui.
En attendant de retrouver Alain, je vous propose de lancer la pause musicale.
Ouais, voilà.
Donc, on va s'écouter Play Your Cards Right de Common, de la BO de Smokin' Aces, qui était sortie en 2007, si je ne dis pas de bêtises.
Flavors, we major gangsters and hustlers living movie star life. Dealt a bad hand, but I played my cards things gonna be alright if you play your cards right. Everything's gonna be alright.
Donc c'était Play Your Card Right, pardon, de Common sur la BO de Smokin' Aces, mise à prix en VF de Joe Carnahan. Donc, reprenons.
Reprenons.
Oui.
Alors, Alan Moore, Alain, il a fait quoi, lui ?
Veux-tu rajouter deux, trois choses ?
Oui, je vais rajouter. Je vais surtout évoquer les raisins de la colère. Hein. C'est-à-dire que, en fait, si Alan Moore a décidé de vraiment de couper les ponts avec Hollywood, c'est effectivement le fait que les films qui en sont sortis sont généralement pas très bons. Donc, on l'a dit, From Hell, pas très bon. League of Extraordinary Gentlemen, pas très bon non plus. Et c'est un peu, c'est avec ce film aussi, hein, que ça va se détériorer, puisque ce film fera l'objet d'une poursuite judiciaire de deux scénaristes qui vont reprocher à la Fox d'avoir utilisé un de leurs scénarios écrit dans les années 90 qui reprenait les grands personnages de la culture populaire pour les réunir dans un film. Pour éviter un procès, pour éviter de la mauvaise publicité, la Fox va trouver un accord avec ces deux scénaristes et va leur donner des sous et voilà. Alan Moore va pas du tout accepter ça puisqu'il va dire que implicitement ça va reconnaître le fait qu'il y a eu plagiat et lui, pour lui, il n'y a absolument pas eu plagiat puisque c'était son idée et que ça n'avait rien à voir avec l'histoire de ces deux gars. Et que bah du coup le fait de ne pas aller devant un procès, bah ça l'empêchait de se défendre et de démontrer qu'effectivement c'était bien lui l'auteur de L.I.G. et pas les deux gugus qui arrivaient en fond de cour. Donc ça il l'a mal pris. Et ce qu'il a mal pris aussi, ce sont les propos de Joel Silver aussi pendant la promo de V pour Vendetta. Où Silver disait à tout le monde qui veut entendre que Lana Wachowski avait rencontré Alan Moore et qu'il avait trouvé le projet super, qu'il les avait encouragés et tout ça.
Ah oui, je m'en souviens de ça.
Alan Moore ayant fait
un AVC.
Ouais, ils m'ont fait quasiment un AVC. Non, j'ai jamais rencontré Wachowski, j'ai jamais dit que j'étais super content. Et foutez-moi la paix, je veux pas avoir quoi que ce soit à voir avec tout ça. De fait, il va vraiment couper les ponts et il va prendre une décision assez rare et assez inédite, c'est qu'il va dire que, à partir du maintenant, si vous adaptez quelque chose que j'ai écrit, vous m'oubliez et surtout, vous ne citez pas mon nom, vous ne l'écrivez nulle part, je ne veux rien avoir avec ça. Et les sous que vous me devez, vous le donnez au dessinateur, ça sera très bien. Et voilà, alors c'est un move assez extrême, mais voilà, c'est Alan Moore.
Au moins c'est honnête, non mais au moins c'est
honnête. Oui. Voilà, il ne veut pas se faire chier avec les ronds de jambes d'Hollywood et tout ce qui va avec. Et il part du principe que bah il a été payé par ce qu'il a fait et que maintenant ça va bien après tout. De toute façon, en plus il est depuis plusieurs années dans un mood où il ne veut plus trop entendre parler des comic books en règle générale. Ouais. Donc voilà, il est cohérent avec lui-même, ça on peut pas lui enlever. Et de fait, eh bien, tout ce qui est suivi après, hein, Constantine, Watchmen, oui, et la série HBO Watchmen.
Mais c'est dommage parce que la série HBO, c'est peut-être la seule que je trouve, qui n'est pas vraiment une adaptation, quoi, en fait. Mais
non, qui n'est pas une adaptation. Elle a inspiré d'eux.
Vraiment, ouais, mais elle a vraiment bien capturé, je trouve, l'esprit du temps, en fait. C'est peut-être le truc qui se rapproche le plus de Moore. Alors pas par l'écriture, pas par les. Mais vraiment pas parce qu'elle capture un espèce de zeitgeist, quoi, tu sais, le
l'esprit du temps, ouais, l'air du temps,
voilà, c'est ça. Que je trouvais plutôt réussi, moi. J'ai beaucoup aimé cette série Watchmen, moi. Je sais pas si vous l'avez vue, vous.
Alors j'ai pas vu, moi.
Oui, mais j'en ai quasiment aucun
souvenir. Oh là, qu'est-ce qu'elle est bien cette, enfin vraiment, moi je,
ça m'a pas marqué plus que
ah
ça.
Ouais, c'est marrant parce que moi qui suis pourtant très très critique, hein, sur les films et les séries, franchement la série Watchmen, elle est assez haut, quoi. Voilà. Et je trouve que pour le coup, on n'a pas essayé de plagier d'humour et de surfer sur son nom. Du coup, on est vraiment parti sur les persos et l'histoire qu'il a tenté de créer. Et ça, c'était plutôt cool. Voilà.
Alors, va falloir qu'on termine dans pas longtemps. Ouais. Alain, qu'as-tu à dire de plus?
Bah, très rapidement, hein, c'est, on va faire un peu la liste, hein, mais voilà, avec le succès du cinéma, eh bien, il y a beaucoup de scénaristes et d'auteurs qui ont essayé d'avoir un peu de reconnaissance et des sous aussi un peu que ça rapporte, hein, puisque au final ce sont les grands oubliés à chaque fois, hein, les acteurs ramassent beaucoup, les réalisateurs ramassent beaucoup, les producteurs ramassent énormément, mais les auteurs, les créateurs, eux, ramassent peanuts. Donc, notamment Gary Friedrich, hein, fera lui aussi des poursuites à la moment de la sortie de Ghost Rider, hein, puisque c'est lui qui a créé le personnage. Alors là aussi un niveau niveau industrie, on est un peu dans le côté salace du truc, hein, puisque Marvel va gagner le procès. Gary Friedrich, lui, qui était un vieux monsieur, était malade, qui n'empêchera pas Marvel de le rattaquer en contre-coup pour un procès abusif, en fait.
Ouais.
Ce qui est un peu ce qui est un peu fort de café. Ouais. Bon, au final, la première décision sera déboutée. Et du coup, Marvel décidera que finalement, on veut bien un accord. un accord. Et donc, voilà, Gary Friedrich sera un peu dessous, peu de temps avant sa mort, en fait, hein, ce qui est une bien maigre consolation. Et puis, on aura, des auteurs, hein, qui ouvriront un peu leur tronche, hein, notamment Jim Starlin, qui dira que, notamment entre Marvel et DC, il vaut mieux créer un petit personnage complètement assez peu vu chez DC, comme Lucius Fox, qui fait un peu partie, enfin qui apparaît quelques minutes dans les deux Batman de Nolan, que créer Thanos. C'est toute une histoire qui va être complètement repompée pour Infinity Gauntlet, et qui, enfin, entre les deux, voilà, il dira, moi j'ai eu plus d'argent de DC pour Lucius Fox que d'argent de Marvel pour Thanos et pour Thanos. Tout l'arc des gants de l'infinité, quoi. Ce qui est quand même assez fort de café, effectivement. Ed Brubaker aussi mettra les pieds dans le plat pendant un podcast. On dira que lui, il a fait caméo dans le film Captain America Winter Soldier, et il dira que j'ai gagné plus d'argent avec mon petit caméo d'acteur il est dans le fond de la salle à côté de Robert Redford, mais c'est tout, quoi. Il a même pas ni de dialogue ni rien, et il gagnera plus d'argent que pour la création du Winter Soldier et pour la création de l'arc complet qui sert de base au film.
Après, c'est toujours le même problème, c'est que c'est officiellement légal. Oui, mais c'est moralement hyper condamnable, en fait.
C'est ce qu'on disait, c'est que ils sont sous contrat, ils le savent, hein, malheureusement, c'est pas un secret, ils savent qu'ils ne toucheront pas grand-chose. Alors du coup, on a eu quand même quelques informations, notamment sur la rémunération des auteurs, où on apprend qu'effectivement Marvel donne quand même des forfaits, propose des forfaits aux auteurs. Mais c'est un peu l'argent du silence, hein. C'est qu'une fois que vous avez signé, vous avez surtout pas le droit de vous plaindre, surtout pas le droit de faire de procès, et surtout pas le droit d'aller voir, de parler de l'argent que vous avez touché. Alors on parle au gros d'une somme forfaitaire autour de 20 000 $ par personnage qui apparaît dans un film. Alors après, on apprend aussi que c'est la discrétion de Marvel, qui a des barèmes. Et que en gros, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent, et que de toute façon, à partir du moment où vous avez signé, vous l'avez là où je pense. Donc voilà, Hollywood, ce monde impitoyable, qui fait que effectivement, si vous êtes auteur, si vous avez créé des choses et créé des arcs, des personnages, et qui servent de base à des films, vous n'aurez que ce que vos yeux pour plus haut, au final, et un peu de centimes de tous les bénéfices. Donc voilà, c'est un peu malheureusement la conclusion de tout ça, c'est que les plus, sans doute ceux qui sont les plus en première ligne du succès des films de super-héros au cinéma, sont ceux qui sont les moins bien rémunérés.
Les moins bien lotis.
Ouais. Les moins bien lotis, ouais. Les moins bien récompensés, en tout cas.
Bah, merci Alain pour la radio. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir été présents.
Ouais, merci de m'avoir accepté comme ça.
Bien sûr.
Voilà.
Ouais. Les auditeurs de Principe Actif, on vous souhaite de prendre soin de vous. On dit à bientôt. N'oubliez pas de...
Il y a des comics.
Oui.
Ouais.
Je l'ai dit avec ma voix la plus suave. Hein.
Et on se retrouve prochainement, malgré que nos enregistrements soient un peu dans le sein. À bientôt.
Your shoes, girl. My train will ride all night long. Every piece of vinyl sing you a song. And you'll be loving my clickety-clack as we go rolling down the track. Hey, my whistle blows at 8:45. I'll still take you to the end of the line, girl. Don't look back, girl. kick off your shoes, girl.
Petite bête qui me ronge les pensées.